Monseigneur Beugré, bonjour.
Bonjour, madame.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement le processus de succession du pape en cas de décès?
C'est par le conclave cardien, la désignation du successeur du pape est un des événements importants au niveau de l'Église catholique. Il ne s'agit pas d'une simple élection d'un leader humain ou d'un leader politique, parce qu'il est ici question de désigner le successeur de Saint-Pierre. Et donc, le conclave est un moment de discernement profond où l'Église s'ouvre à l'action de l'Esprit-Saint, parce que nous croyons profondément qu'à travers l'élection qui se joue au cours du conclave, c'est Dieu même, en utilisant les cardinaux comme des canaux, des instruments, qui désigne son successeur.
Comment se déroule le conclave et quelles sont les règles qui le régissent?
Le mot conclave même vient d'un mot latin, cum claves, qui veut dire souple, en référence à une procédure qui s'instaure au Moyen-Âge. Le but de la procédure, c'est d'empêcher les influences extérieures dans l'élection jusqu'à ce qu'un consensus soit trouvé pour l'élection ou la désignation du pape.
Et quelles sont les étapes clés qui suivent le décès d'un pape?
Les cardinaux de pas plus de 80 ans, ils votent. Un cardinal qui vote n'a pas le droit lui-même d'écrire son nom. Et puis, au fur et à mesure, la majorité qui se dégage, et puis bon, celui qui est désigné est retenu avant l'élection en tant que telle. Il y a un acte de préparation spirituelle, puis humaine, dans la mesure où ils organisent un peu de congrégations, des congrégations d'ordre général, où il y a des échanges pour se connaître, pour qu'il y ait conclave. La première chose, il faut que le siège soit vacant. Donc, la vacance du siège advient par la mort ou la renonciation du pape, mais avec le pape François, c'est la mort. Et en ce moment, le gouvernement de l'Église est temporairement confié au collège des cardinaux. Et pendant cette période de vacances-là, aucune décision ne peut être prise sur la doctrine de l'Église ni sur la structure de l'Église. Nous sommes dans ce contexte en ce moment.
Et quel est le rôle du collège des cardinaux dans l'élection d'un nouveau pape?
Les cardinaux participent à des journées de prière, de réflexion. L'objectif, c'est d'invoquer la lumière de l'Esprit-Saint pour que le choix soit guidé par la volonté de Dieu et non par des intérêts humains ou politiques. Mmh. Et là, ce point est important parce que nous croyons aussi, nous sommes des hommes.
Tout à fait.
Il y a aussi les influences. L'Église est dans le monde et on sait tous l'importance du pape, le rôle que le pape joue. Et après ces réparations, il y a l'entrée dans la chapelle Sistine. Et donc, avant le début de ce conclave-là, le maître de cérémonie ecclésiastique invite les personnes qui sont dans ces chapelles-là, qui ne devraient pas prendre part à l'élection, sortir. Il y a la fameuse expression latine extra omnes, qui veut dire tout le monde dehors. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas électeurs, ne sont pas cardinaux électeurs, ils sortent. Et puis les cardinaux électeurs restent, ils prêtent un serment du secret absolu sur tout ce qui va se passer au cours du conclave, parce qu'il y a une sanction qui est rattachée à la violation du serment, c'est-à-dire toute violation du serment entraîne de graves sanctions ecclésiastiques qui sont déterminées par l'autorité qui apprécie les circonstances. Une fois qu'ils sont entrés, commence les votes. Chaque cardinal écrit le nom de son candidat sur un bulletin qui est ensuite déposé dans une urne. Alors, pour élire le pape, le candidat doit obtenir au moins 2/3 des voix. Si aucun consensus n'est atteint, après plusieurs scrutins, la procédure est interrompue, c'est-à-dire qu'ils arrêtent l'élection et puis ils prennent un moment de prière et de dialogue avant de reprendre. Le résultat de chaque vote est communiqué au monde par la fumée qui s'échappe de la cheminée de la chapelle Sistine. Alors, il y a deux types de fumée. La fumée noire qui dit clairement qu'aucun pape n'a été élu. Et puis, la fumée blanche qui annonce l'élection du pape. Quand celui qui est élu est connu, il faut d'abord qu'il donne son accord. S'il accepte, il acquiesce, il dit oui, explicitement. Et puis, il choisit un nouveau nom. Ce qu'on appelle le nom pontifical. Le pape, c'est François, il a choisi François, en lien avec Saint François d'Assise.
Alors, on évoque souvent la question d'un pape d'origine africaine sur l'Église catholique. Et selon vous, est-ce que cela peut arriver tout d'abord? Et puis, quel impact cela aurait?
C'est un vieux débat. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que ce débat surgit depuis, prenons simplement à partir de Jean-Paul II, parce qu'en ce moment, j'étais plus alerte dans la question. Est-ce que nous sommes prêts à assumer cette responsabilité? Parce que c'est une responsabilité qui engage aussi l'expérience d'un continent à tous les niveau des structures. Nous avons des cardinaux qui ont des expériences, qui marquent l'Église. Je pense que vous connaissez plusieurs noms de ces cardinaux-là qui vont participer au conclave. Nous prions pour que leur participation puisse marquer la présence du continent africain. Et puis, nous nous abandonnons à l'Esprit de Dieu. Et rien n'est impossible à Dieu. Si la volonté de Dieu, c'est d'avoir un cardinal africain, bon, ça adviendra, mais personnellement, je pense qu'on a encore du chemin à faire.
Merci infiniment, Monseigneur Beuret.
Merci.